Le taureau par les cornes, proposition paysanne. C'est la chronique de la Confédération paysanne de l'Ain. 15 minutes par mois pour se pencher sur des questions agricoles avec des paysans et paysannes de l'Ain. Bienvenue à toutes et tous. Bonjour, je suis Marie, animatrice à la Conf de l'Ain et je reçois tous les premiers mardis du mois à l'antenne de Radio B, un ou une membre de la Conf. Aujourd'hui, c'est avec Xavier que nous allons échanger sur la question globale et très importante du revenu des agriculteurs et agricultrices. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Alors, on en entend un peu parler depuis quelques jours. Les mobilisations des agriculteurs s'apprêtent à recommencer. Sur quel mot d'ordre sont prévues ces manifestations ?
Oui, alors on en entend parler et on a l'impression d'ailleurs de se répéter sur toutes ces questions, voilà, parce que en fait les mois passent et les revendications restent un petit peu les mêmes. La liste des mots d'ordre, on en a peur, nous, à la Conf, va être très longue et donc, du coup, recoupe plein de réalités. Alors, aux côtés du sujet qui nous occupe aujourd'hui, qui est la question des revenus agricoles sur lequel on va revenir, eh ben, on peut parier qu'on va avoir la pression administrative, les questions environnementales. Mmh. On a vu la coordination rurale déjà taguer une mairie parce qu'il y avait prévu une conférence sur les pesticides dans ce lieu, hein, à Guéret, pour être plus précis. Donc on imagine que ça va être, comme d'habitude, la foire aux idées pour avoir des revendications aussi diverses que parfois contradictoires. Mmh. Et c'est là-dessus qu'on va aussi revenir rapidement aujourd'hui.
Ça marche. On entend un peu parler du Mercosur au milieu de tout ça. Qu'en pense la Conf ?
Oui, ben effectivement, au milieu de l'ensemble de ces revendications, de ce bruit finalement habituel des différentes organisations syndicales, apparaît un sujet bien mis en avant aujourd'hui, qui est la question d'un nouvel accord de libre-échange avec les pays du Mercosur, donc de l'Amérique du Sud. Et donc, bah, effectivement, c'est un point sur lequel la Confédération paysanne est depuis longtemps, hein, ces accords de libre-échange d'une façon générale, et le Mercosur en particulier, parce qu'il y a des implications importantes, notamment pour le monde de l'élevage, puisqu'il s'agit finalement d'importer des produits alimentaires, et notamment de la viande bovine, à bas coût, on va dire, ou en tout cas à coût très compétitif par rapport à l'élevage français et avec des contraintes, on va dire, sanitaires, environnementales, qui sont très différentes, donc des conditions de production très différentes. Donc c'est une vraie question, cet accord de Mercosur. C'est finalement un troc international. Hein. On va essayer de vendre des services européens, des voitures européennes, on a entendu ça dans les médias, contre de la viande bovine, notamment, au détriment finalement des éleveurs et de l'équilibre du marché intérieur et donc du revenu des agriculteurs, tout simplement. Donc effectivement, c'est un vrai sujet, un bon sujet. Simplement, nous, on est hyper étonnés, notamment que la FNSEA se réveille aujourd'hui sur cette question des accords de libre-échange.
Sur ces accords-là, on a parlé ensemble en juin des problèmes que posent de manière globale les accords de libre-échange sur le revenu agricole, notamment par la mise en compétition de produits alimentaires des quatre coins du monde. On avait parlé du CETA, l'accord entre l'Union européenne et le Canada. Je pense qu'il serait aussi très intéressant aujourd'hui de reparler de l'accord Union européenne-Maroc qui a subi un revers au début du mois d'octobre.
Alors oui, il y a quelques victoires comme ça, et il faut quand même les souligner. Alors il faut dire quand même que cette victoire, elle se fait sur un point particulier, hein. C'est auprès de la Cour de justice de l'Union européenne, et c'est sur une question très précise qui est le Sahara finalement, où c'est une question coloniale, en fait. Le Maroc revendique ce territoire. Et donc, dans l'accord UE-Maroc, il y avait les produits, finalement, de ce territoire-là étaient importés massivement en Europe sous la marque Maroc, en fait. Hein, ça posait vraiment un problème pour ces territoires et, qui ont une revendication d'autonomie, finalement. Et il s'agissait de reconnaître cette autonomie. famille. Donc, pour le coup, l'accord UE-Maroc a été cassé à cause de ça. Et donc, d'abord, une grande victoire pour les populations de ces territoires-là qui revendiquent leur autonomie, mais une victoire aussi pour la Confédération paysanne et pour les gens qui dénoncent ces accords de libre-échange, parce que cet accord Maroc-Union européenne, il faisait, par exemple, qu'on importait 300 000 tonnes de tomates en Europe ces dernières années. Et par an, évidemment, par an. Et donc, du coup, que ça mettait à mal la production maraîchère locale, puisqu'on est plus qu'autonome à 50% sur le territoire français, notamment. Et donc, il y a une vraie question là, d'équilibre. Et donc, on se félicite que ça soit... qu'on ait enregistré cette victoire contre cet accord de libre-échange, et ça permettra justement de repartir sur des bases beaucoup plus saines. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut immédiatement que cet accord s'arrête et que la Cour de justice européenne donne 12 mois et que le plus tôt, ça sera le mieux. Voilà.
Complètement. C'est historique, parce que du coup, on comprend quand même qu'il est possible de revenir sur des accords qui ont été conclus par le passé. Alors, l'idéal, ce serait de plus en négocier. Mais en parallèle, du coup, de ces accords de libre-échange, il y a d'autres revendications de la CONF pour garantir le revenu paysan. Quelles sont-elles ?
Alors, on peut quand même revenir 2 minutes sur la contradiction fondamentale de la FNSEA qui, là, pour le coup, monte très fort contre le Mercosur, mais qui a avalé, tu l'as dit, Marie, l'accord sur le CETA, l'accord UE-Nouvelle-Zélande, avec des implications très fortes pour les agriculteurs. Mais quand on est Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, et qu'on importe du colza canadien pour pouvoir faire du DST, ou de l'énergie d'une façon générale, ou de l'huile de palme, c'est sûr qu'on est plutôt favorable aux accords de libre-échange. Et là, tout d'un coup, on se dit, le Mercosur, c'est pas bon, mais c'est sur le principe que ces accords de libre-échange posent problème. Et par contre, évidemment, que de revenir sur ces accords de libre-échange, et on a enregistré encore une fois une victoire par rapport au Maroc, l'accord avec le Maroc, ça va pas résoudre tous les problèmes de l'agriculture française du jour au lendemain. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'évidemment, il faut des prix minimum garantis pour les agriculteurs, des prix minimum garantis qui permettent un revenu décent. Et ce revenu, on insiste beaucoup, c'est la rémunération du travail, mais c'est aussi la prise en compte de notre protection sociale et donc une retraite décente, évidemment, une cotisation retraite pour une retraite décente, évidemment, mais aussi le droit au remplacement. On parlait de l'accord Mercosur qui mettait à mal l'élevage. L'élevage, par exemple, dans le département de l'Ain, c'est 1800 éleveurs qui vont être impactés plus ou moins sur leur production. Et on sait que ces 1800 éleveurs, l'un de leurs soucis, c'est de se faire remplacer. L'élevage, c'est un dur métier qui nécessite quand même tous les jours d'être au contact avec ces animaux. Et c'est sûr qu'il y a une importance phénoménale à pouvoir se faire remplacer. Donc la protection sociale, c'est ça. Et dans le prix des produits, dans le prix de la viande qu'on vend, dans le prix de l'ensemble des productions agricoles, il faut qu'il y ait cette protection sociale. Donc, prix minimum garanti, prix minimum d'entrée aussi pour des produits, parce que il faut évidemment protéger. C'est pas un gros mot, on l'a déjà dit ensemble à ce micro, donc on va le répéter. Protectionnisme, c'est pas un gros mot. Il faut qu'il y ait une protection des producteurs français pour pouvoir garantir un revenu aux agriculteurs et un revenu et à la fois des produits sains et pour les consommateurs. Et bon pour les consommateurs. Voilà.
Outre du coup la question du revenu sur l'élevage, on assiste aussi à des problématiques sanitaires. Là, depuis quelques mois, on en a rapidement parlé avec Alice sur la chronique de septembre. On entend parler de la fièvre catarrhalovine, de la maladie hémorragique épizootique les cheptels. Globalement, l'élevage, quelles sont les propositions, les revendications de la CONF pour l'élevage de manière générale, outre le revenu?
C'est évident, les éleveurs sont dans une phase très difficile et là on voit vraiment les conséquences du réchauffement climatique, puisque par exemple la fièvre catarrhalovine, c'est une maladie à vecteur qui est je veux dire, portés par des moucherons qui sont directement liés au réchauffement climatique et dont le, en tout cas dont la vie dans, au cours de l'année est, est beaucoup rallongée parce qu'il n'y a, a plus de période froide comme on en avait. Donc c'est vraiment un souci. Et donc, il faut absolument qu'on assure que l'État, là, pour le coup, l'organisation sanitaire française, assure l'égalité des producteurs, des éleveurs vis-à-vis des vaccins, notamment, de la prévention de ces maladies-là. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ouais. On a deux poids, deux mesures, en fait. On a finalement les maladies vectorielles ou les maladies qui sont des freins à l'exportation et au marché mondial, mondialisé.
On y revient.
Eh ben, on y revient. Celles-là, elles sont bien prises en compte et on met tout, tout en œuvre, des vaccins gratuits, des périmètres de protection. Mmh. Et puis, par contre, une maladie qui est plus... qui est endémique aujourd'hui, qui est le variant 8 de la FCO, ben là, pour le coup, l'État n'a rien prévu, les GDS sont à la rue et GDS, n'anticipent pas. Alors oui, les groupements de défense sanitaire, qui sont un peu des groupements professionnels, qui sont organisés en département et qui doivent... qui mènent la politique sanitaire en fait de prévention, voilà, et ils ont un rôle tout à fait important. Et donc du coup, bah, il faut pas se laisser endormir justement par ces, par uniquement les questions commerciales, mais bien parler de santé des animaux, de santé des personnels aussi. Et donc voilà, il y a toutes ces questions là qui sont derrière. Donc la conf est pour vraiment que on mette l'accent là-dessus et qu'on ne laisse pas le libre marché régler ses problèmes de lui-même, quoi. Voilà.
Pour terminer cette chronique, une dernière question. À la place des auditeurs et auditrices de Radio B, il y a une question qui peut vite venir en tête. Si les prix payés aux producteurs et aux productrices augmentent, est-ce que c'est obligatoirement répercuté sur les prix de vente? Est-ce que tout le monde pourrait du coup s'acheter les produits de qualité des paysans et paysannes du coin?
Ouais, voilà une très bonne question, Marie, et qui, évidemment, à la conf, nous occupe pas mal. Hein, c'est de se dire bah, comment faire pour que les produits soient acceptables pour tout le monde, quoi, puissent accessibles pour tout le monde, je veux dire. Voilà. Et donc, l'importance, d'où l'importance de la transparence des prix, de l'interdiction des surmarges pour l'aval, hein, donc les grandes surfaces, hein, grosso modo, mais aussi les grosses multinationales qui font de la transformation. Hein, voilà, on voit Lactalis, par exemple, aujourd'hui, dire qu'il ne va plus collecter de lait français, aller l'importer d'ailleurs pour baisser ses coûts et puis pour garder ses marges. Hein, c'est tout ça. C'est tout simple, hein, ça, voilà. Donc, il y a une logique vraiment financière derrière ça, et il faut vraiment le contrôler. Donc, ça nécessite un contrôle de l'État, c'est très clair. Hein, voilà. Il y a eu un contrôle des prix en France à un moment donné, et je me demande si, quelque part, il ne faudrait pas y revenir, au moins sur quelques produits bien ciblés, hein, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ait des marges qui soient à des niveaux qui donnent des 5, 10, 8, 15 de rentabilité pour les actionnaires, alors que voilà, les gens au quotidien ont du mal à accéder à des produits de première nécessité. Donc ça, c'est une première réponse. Un contrôle ferme, un contrôle important là-dessus. Et puis la deuxième réponse, c'est l'idée de la sécurité sociale de l'alimentation, tout simplement, hein, il serait intéressant qu'on ait plus de temps pour développer, mais dont le principe, c'est en fait une cotisation. Chacun cotise, c'est vraiment la même idée que la sécurité sociale, c'est chacun cotise en fonction de ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins. Et donc, du coup, on peut imaginer une cotisation et puis derrière, une allocation à chacun de 100 euros par mois, par exemple, pour aller acheter des produits conventionnés, donc que collectivement, on décide qu'ils soient bons pour la santé, exempt de pesticides, c'est le minimum, mais aussi porteurs de valeur, produits de l'agriculture paysanne, par exemple, hein, voilà, parce qu'il y a des fermes à taille humaine qui font attention à l'environnement, à la biodiversité, etc. Voilà. Et c'est ce genre de logique qu'il faut qu'on arrive à imposer dans le débat et puis à mener pour les années à venir, pour l'avenir de l'agriculture en France, c'est clair.
On reviendra très probablement sur le sujet de la sécurité sociale de l'alimentation dans une prochaine chronique. Merci beaucoup, Xavier, de ta présence.
Merci à vous.
Merci à vous, auditeurs et auditrices de Radio B, pour votre écoute. Et on se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle chronique. Le taureau par les cornes, proposition paysanne. C'est la chronique de la Confédération paysanne de l'Ain. 15 minutes par mois pour se pencher sur des questions agricoles avec des paysans et paysannes de l'Ain. Bienvenue à toutes et tous.